Nouvelle édition des championnats de France, des déceptions, des premiers titres, des confirmations et des grosses surprises. On débriefe tout ça dans ce nouvel épisode de
21 Shuttle.
Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational.
I'm the bad guy.
Take that.
Salut Benoît, comment vas-tu ?
Salut Ewan, bonjour à tous. Mieux que toi qui as bégayé ton intro et que les gens ne sauront pas.
Ah, c'est l'émotion du match de rugby qui vient de se terminer au moment où on enregistre qui m'a fait rater cette intro, Benoît. Mais je retiens que tu n'hésites pas à me balancer dès que je fais une erreur. On va tout de suite rentrer donc dans ces championnats de France qui ont eu lieu à Cesson-Sévigné en Bretagne. Et on va commencer par le double dames, et comme on le fait pour les tournois internationaux, pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter, on va faire d'abord la finale et puis après on remontera un peu dans le tableau, puisque la finale c'est ce qui est frais dans notre esprit. Les championnes de France, c'est qui ? C'est Margot Lambert et Anne Tran, qui avaient déjà remporté le titre l'année dernière. Mm-hmm. Là, elles gagnent 21-18, 17-21, 21-15 contre Delphine Delru et Vimala Herriot, qui n'était elle pas tête de série. Lambert Tran était tête de série 2. Benoît, j'ai cru comprendre que tu avais plutôt apprécié ce match.
Ah oui, je pense que qui ne l'a pas apprécié, c'est compliqué quand même, parce qu'on a vu. Moi, en tout cas, j'ai vu un très bon match de Bad. Globalement, on s'attendait à retrouver ces deux paires. On reviendra sur le tableau après, mais est-ce qu'on s'attendait à retrouver Delru Herriot capable de rivaliser ? Je suis pas sûr, mais on a vu un très bon match au Bad. On a vu Lambert Tran challenger, même si c'est du one shot pour Delru Herriot. Je suis quand même content que Lambert Tran soit challenger. Et alors, à contrario, j'aurais dit que ça aurait fait tâche si elles avaient perdu, mais là. Vraie preuve de solidité, parce que pendant un 7,5, j'aimerais bien savoir ce que t'en penses, mais même si elles prennent ce premier set pendant un 7,5, moi je les ai trouvées pas petits bras, ce serait dur, mais un peu timorées, un peu. Je pense qu'elles s'attendaient pas à être aussi bousculées en tout cas.
Moi aussi, ouais, j'ai trouvé que c'était pareil, plutôt une belle finale. Moi par contre, mon avis, Benoît, sur ce match, c'est que je trouve que c'est clairement la fraîcheur physique qui a fait la différence à la fin. Et j'aurais bien aimé voir ce match si Delru et Herriot n'avaient pas déjà joué une finale plus tôt dans l'après-midi. Hein. Franchement, alors je retire rien à Margot Lambert et Anne Tran qui, je pense que globalement, sur l'entièreté du match, ont été meilleurs en faisant notamment moins de fautes. Mais comme je le redis, j'aurais bien aimé voir ce match si Delru et Herriot avaient été un peu plus fraîches physiquement, parce que je trouve que surtout du côté de Vimala Herriot, c'est ce qui a pêché en fin de match.
Ah oui, ouais, t'as raison de souligner ça. Il y a ça. Alors c'est difficile parce que là on juge pas sur, tu juges pas sur une saison, tu juges sur 3 jours, donc c'est toujours plus compliqué de dire oui, tu peux faire un bon match sur 3 jours, c'est vrai. Mais t'as raison de souligner ça. Et puis Vimala Herriot. Si vous le savez pas, elle est quand même atteinte d'une maladie, donc en plus de l'état physique sur 4 jours, elle peut se lever un matin et ça peut ne pas aller, même si physiquement elle se sentait bien la veille, donc c'est très compliqué. Donc oui, effectivement, je pense que ça joue malgré tout, mais malgré ça, je trouve que ce qu'elles ont proposé, waouh quoi, faut leur rendre hommage, je trouve.
C'est clair. Benoît, on va pas se mentir. Dès qu'on avait vu que elle s'était inscrite à deux, Delphine Delru et Vimala Herriot, on trouvait ça prometteur. Même après le tirage, quand on les a vu qu'elles affrontaient au premier tour, on va en reparler, la tête de série 1, on s'est dit, c'est bizarre quand même, une paire pas tête de série qui tombe contre la tête de série 1. On s'est dit, y a toujours la place. Elles se sont, comme Lambert Tran en fait, hein, les deux paires se sont un peu baladées toute la semaine. Ouais. Et comme toi, très satisfait de voir que Lambert Tran ont un peu de compétition, mais aussi très déçu et très triste de voir que cette compétition ne durera pas dans le temps, puisque comme tu l'as dit, c'est un one shot et que je sais pas si on reverra Vimala Herriot sur des championnats de France, mais a priori, le haut niveau, c'est terminé pour elle.
Oui, je pense, on va même être honnête, hein, quand on a vu les tableaux, on s'est dit que c'était la finale espérée, même si elles n'étaient pas tête de série. Je pense que c'est pas manquer de respect à qui que ce soit de dire ça. Mais ouais, c'est un one shot a priori, peut-être que, peut-être, on sait pas, mais Vimala Herriot, le haut niveau, en tout cas l'international, a priori c'est terminé parce que son état physique fait que tu peux pas avoir un projet long terme. Maintenant RCF, puis pourquoi pas les France chaque année, ça c'est pas impossible. Maintenant c'est vrai que ça met un peu l'alarme à l'œil. Enfin je sais pas ce que t'en penses entre le mixte dont on parlera plus tard et le double dame. On sait quel niveau a eu Vimal à Rio, mais et puis les larmes elle nous les a données, je pense en pleurant elle-même, mais c'est quand même terrible et dur parce que alors humainement c'est vrai, mais en plus on perd, ben je sais pas ce que t'en penses, mais ça reste une des joueuses, c'était une des joueuses les plus prometteuses de sa génération, quoi.
Ouais, et puis pour ceux qui suivent un peu le bad d'un peu plus loin et qui ont pas tous les chiffres en tête, Vimal Herio elle a que 23 ans, c'est pour ça que c'est terrible, c'est que sa carrière elle se termine avant d'avoir commencé, quoi. Et c'était une joueuse ultra ultra prometteuse. Bah, en plus, c'était assez symbolique aujourd'hui qu'elle soit opposée à Margot Lambert, qui a longtemps à deux, elle formait la paire prometteuse française, quoi. Et malheureusement, il y a que Margot Lambert qui connaîtra le très haut niveau, je pense. Et ça, c'est franchement, c'est vrai que je m'attendais pas à cette fin, beaucoup d'émotions pour les quatre joueuses et surtout Vimal Herio qui était en train de pleurer à la fin de la finale, et on peut comprendre pourquoi, parce que c'est dur, et pour le mixte où son partenaire de mixte est dans la même situation, c'est encore plus terrible. On en reparlera.
On a vu des images aussi belles que tristes en fait, et puis il y a forcément un sentiment d'inachevé, quoi, qui restera.
Ouais, voilà, parce que quand tu vois que du coup avec une maladie, alors je vais vous dire ce qu'elle a, mais je vais sûrement pas réussir à le prononcer, c'est une spondylarthrite ankylosante.
Ouais, c'est ça.
Il y a un article de RMC Sport sur elle, on le mettra dans la description de l'épisode. Mais du coup, voir que malgré ça et elle a longtemps été éloignée des terrains, elle arrive à faire double finale sur des championnats de France, on ne peut que respecter ce qu'a fait Vimal Herio. Benoît, on a beaucoup parlé des finalistes parce que c'était une paire un peu originale. Sur Margot Lambert et Anne Tran, est-ce que t'as quelque chose à rajouter? C'était, comme tu l'as dit, moi je suis d'accord avec toi, c'était il fallait être championne de France, pas à tout prix, mais il fallait quand même envoyer un message de si elle les patronne, surtout avant une compète par équipe qui arrive dans deux semaines.
Oui, il le fallait, c'est leur troisième titre chacune, dont le deuxième consécutif ensemble. Oui, le fallait. Je pense que il faut dire la vérité, si elle l'avait pas eu, on leur serait tombé dessus. Donc là, elles le font, donc il faut le souligner, elles font une semaine parfaite, elles aussi. En fait, il n'y a pas vraiment eu débat sur qui devait aller en finale quand on voit le tableau. Et Lambert Tran, elles ont fait respecter clairement la hiérarchie.
Margot Lambert qui avait été championne avec Vimal Herio en 2020. Et Anne Tran qui avait été championne de France deux fois donc avec Margot Lambert, et aussi ça remonte quand même en 2017 avec Émilie Lefel. Oui, alors sur leur parcours ça a été plutôt facile, surtout leur demi-finale face aux têtes de série 3-4, en l'occurrence Lorraine Baumann pardon et Héloïse Lemoulet, qu'elles ont gagné 21-6, 21-9 en demi. Et côté Del Rue Herio, demi-finale assez facile aussi contre Théa Marguerite et Camille Poignante, 21-15, 21-12. Non, Benoît, le match dont je veux parler, c'est surtout du coup le match de Delphine Del Rue et Vimal Herio dès le premier tour. Contre Ophélia Cazier et Juliette Moinard, les têtes de série 1, battues 21-11, 21-19. Comment tu le vois? Est-ce que tu te dis que Ophélia Cazier et Juliette Moinard, avec un autre tirage, elles peuvent faire finale ou demi? Ou alors, est-ce que du coup elles ont pas de chance? Ou alors est-ce qu'elles auraient dû faire mieux et assumer, on va dire, ce statut qu'elles avaient au début?
Pour moi, elles auraient pas pu faire mieux, pas dû faire mieux. Je vais te dire la vérité. Pour moi, il y a des paires bien meilleures. Marguerite Poignante, pour moi, c'est un peu au-dessus. Valet Verselot, elles étaient pas tête de série, mais c'est au-dessus de Moinard Cazier pour moi. Enfin, la défaite au premier tour, elle fait tâche parce que t'es tête de série 1, mais t'as pas à rougir parce que je pense que t'aurais pu perdre contre au moins 4 paires de ce tableau.
Ouais, c'est clair, pour moi, Ophélia Cazier, c'est même pas une pure joueuse de double, donc.
Non, c'est pas le cas.
Donc c'est ça qui est compliqué. Non.
C'est dur d'avoir ce statut de tête de série en fait, parce que c'est pas que tu le mérites pas, mais c'est qu'il est.
C'est Lambert Tran qui devrait l'avoir, quoi, c'est tout simplement.
Ouais, voilà, il est dur à porter, quoi.
Ouais, exactement. Et Benoît, aussi, je trouve, ce tableau de double dame, il a aussi confirmé, je trouve, l'écart qu'il y a entre Delphine Delru et n'importe quelle joueuse de double française. Je sais pas ce que t'en penses.
Oh si, si, on l'a vu très tôt cette semaine, mais...
Ouais, je trouve qu'il y a une différence entre elle et les autres.
C'est la meilleure
joueuse
de double.
Même Anne Tran et Margot Lambert, je trouve, il y a un écart entre... Après, on parle d'une joueuse qui est top 5 mondiale en mixte, donc forcément, j'ai envie de dire, mais c'est frappant, là, je trouve.
Ouais, mais on a vu en double dame que si tu montais un projet autour de Delphine Delru, il serait crédible très très vite.
C'est clair. Alors que là, maintenant, ça remonte hein, quand elle jouait avec Léa Palermo.
C'est ça.
C'était il y a vraiment très très longtemps.
Ouais.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce tableau de double dame? J'ai parlé un peu des têtes de série. On n'a pas parlé de tout le monde. On avait Flavie Vallée et Milly Verselo qui, je pense, auraient pu aller plus loin si elles n'avaient pas pris Lambertran dès le premier tour. Je sais pas ce que tu en penses, Benoît, que c'est les championnes de France d'il y a 2 ans.
Oui, si je partage. Championnes de France, on l'avait dit, c'était peut-être un peu... Elles avaient profité, disons, d'une année un peu... Je veux pas dire où il y avait personne, mais c'était une année.
Non, le niveau était tout simplement un peu plus bas. Ouais. C'était arrivé. Enfin, on doutait pas de leur potentiel de faire ça, mais c'est arrivé beaucoup plus tôt qu'on pensait, quoi.
Mais elles ont un niveau de médaillé au championnat de France. Ça, c'est sûr.
Voilà.
Elles méritent d'être tête de série.
Le fait qu'elles soient pas tête de série, ça leur a coûté cher.
Exactement.
Donc, ouais, est-ce que t'as quelque chose à rajouter?
Non, on en a bien parlé.
On passe tout de suite au double homme.
I'm the bad guy.
Take that!
Double homme remporté par les têtes de série 2, Julien Maillot et William Villéger, 21-14, 21-16 contre les frères Popov, têtes de série 1. Benoît, qu'est-ce que tu as pensé de ce match?
Qu'il n'y a pas débat. Je commence par là parce que c'est le premier truc qui m'a frappé. Quelle maîtrise de Maillot Villéger, maîtrise du match, maîtrise du rythme imposé. Un rythme pas particulièrement lent, mais un peu lent, dans lequel les Popov ont jamais su trouver, eux, leur rythme et s'en sortir. Je sais pas ce que t'en penses, mais ils sont montés en puissance cette semaine, Maillot-Villéger. J'ai beaucoup de trucs à dire sur ce tableau, mais je pense que toi aussi. Mais sur le match, ouais, c'est ça. La maîtrise de A à Z dans tous les domaines.
Ouais, moi je pense que, petit aparté sur Maillot-Villéger, contrairement aux deux finalistes, deux paires finalistes du double dame, eux ont eu des matchs difficiles quasiment toute la semaine.
Ah bah oui.
Et je pense que ça leur a fait plus de bien que de mal.
Ils en avaient besoin.
Sur cette finale notamment.
Bah ils en avaient besoin, ouais.
Alors,
bien sûr.
Je suis d'accord, maîtrise, c'est ultra ultra mérité. Cette victoire, ils ont été meilleurs sur tout le match. Je trouve que les Popov n'ont pas été incroyables, mais c'est toujours difficile de jouer contre les Popov parce que ils sont capables d'être en dessous de tout pendant 5 points et de se réveiller, de te mettre une série. Donc je pense qu'il faut toujours rester ultra concentré quand tu joues contre ce genre de paire.
Ouais.
Et Benoît, moi ce qui me surprend, c'est pas forcément qu'ils gagnent, mais c'est qu'ils gagnent de cette manière-là parce qu'on aurait pu attendre une victoire des Popov ou alors un match plus serré que ce qu'on a eu là en tout cas. Alors,
oui,
est-ce que, juste,
oui,
on évacue
vas-y,
tout
vas-y,
de suite, on ne sait pas, est-ce que le fait que ça se soit joué avant la finale du simple homme, est-ce que ça a eu une incidence et tout? Honnêtement, moi,
non.
Je ne pense pas, mais ouais, c'est pour ça que ça me surprend de voir Maillot-Villéger gagner avec cette facilité.
Je pense, moi non plus, écoute, pour répondre à ta question de est-ce que le simple homme, tout ça, je ne pense pas. Je pense quand même que Maillot-Villéger... c'est presque le mix idéal. On est beaucoup tombé sur William Villéger et je pense, en tout cas, on l'a pas fait pas pour faire du buzz, mais on l'a fait parce qu'on le pensait vraiment. Mais il faut aussi dire quand les choses vont bien, il monte en puissance, cette paire monte en puissance et on en parlait en off, mais ça ressemble aussi à un sort de fit parfait en fait. Parce que William Villéger...
Mais on l'avait dit, hein, je m'en souviens, quand ils avaient joué de mémoire, c'était contre Lane Vendy, là, quand ils avaient failli battre Lane Vendy. Et quand ils ont commencé à jouer à deux, on avait dit, sur le papier, c'est deux profils très complémentaires.
C'est ça, le seul regret, c'est que Julien Maillot, il est pas cramé, c'est pas ça, mais il est plus sur la fin, en fait, et c'est un peu frustrant, mais William Villéger avait besoin d'un profil comme ça à côté de lui, plus posé, plus expérimenté, et à côté de Julien Maillot, il avait besoin d'un mec comme William Villéger, je pense. Et aujourd'hui, de toute façon, en tout cas, dans ce qui se fait à l'INSEP, ça ressemble au meilleur fit qu'on pouvait proposer aux deux, en fait.
Ouais, Julien Maillot, il a 28 ans, donc effectivement, il est plus début de carrière, plutôt vers le début de carrière comme l'est William Villéger, mais il a encore quelques belles années, je pense, si son corps le laisse tranquille, parce qu'il a quand même été pas mal blessé lui aussi dernièrement.
C'est surtout ça, ouais.
Je suis d'accord, au niveau du jeu, parce que on va dire qu'au niveau du jeu, Fabien Delerue, pour moi, c'était un très bon fit aussi avec William Villéger. Par contre, au niveau du caractère et de l'expérience, je pense que Julien Maillot, c'est le gars qu'il faut pour mettre à côté d'un gars comme Villéger. Oui, et puis... on parlait de Villéger, je crois que c'était pendant notre épisode de Top 12, donc c'était l'avant-dernier épisode qu'on a fait. Et pour moi, c'était pas gratuit, puisque ce qu'on disait, ça n'entre pas en conflit avec ce qui vient de se passer cette semaine.
Oui,
on disait quoi ? On disait que ces deux partenaires, ils venaient de se séparer de ces deux partenaires en double homme et en double mixte, à savoir Fabien Delerue et Anne Tran, qu'en Top 12, il n'était pas très clutch. On attendait de voir ce que ça donne avec Julien Maillot. Pour l'instant, ça avait pas mal commencé, mais il n'y avait pas eu trop d'étincelles. Et là, j'ai envie de dire, là, voilà la première étincelle de cette paire, Benoît.
Bah, c'est ça, parce que globalement, tu l'as dit en intro, mais semaine où tu joues les meilleures paires de ce tableau, quasiment. Parce que même ton premier tour, pas ton premier tour, mais ton deuxième tour, je voudrais avoir ton avis là-dessus, mais globalement, t'as joué des paires difficiles toute la semaine. Donc, ouais, chapeau.
Ouais, alors premier tour facile derrière, ouais. Effectivement, ils jouent Erwin Kellhoffner et Bastien Kersaudy, deux mecs qui ont énormément d'expérience. À défaut de d'avoir un niveau international, c'est toujours le genre de match très compliqué à jouer sur des championnats de France dans les premiers tours. Enfin, pas forcément très compliqué, mais le match où tu peux pas te rater, quoi. Ils ne se sont pas ratés, même si c'était effectivement un match difficile. Victoire 21-17, 21-19. Derrière, tu joues Corvée Labarre. Benoît, c'était le match incertain de ce tableau de cette semaine. Et tu me dis ce que t'en penses. Petit avantage, selon moi, à Corvée Labarre avant le match. Et finalement, ils le perdent 20-22, 21-15, 21-16. Voilà, c'est quand même pas rien ce match, Benoît, puisque Corvée Labarre, ça fait un moment que là, ils sont deuxième paire française derrière les Popov. Et en termes de spécialistes du double, on va dire, ils sont première paire française. Et ce que je dis, ça a son importance, notamment sur des compètes par équipe comme les championnats de France, championnats d'Europe qui vont arriver dans deux semaines. C'est important que Julien Maillot et William Villéger aient réussi à les battre, et ça veut dire quelque chose. Ça va pas tout remettre en question tout de suite, mais avec la qualif olympique qui se profile, ça peut avoir son importance, Benoît.
Carrément, t'as dit beaucoup de choses intéressantes sur lesquelles je suis globalement d'accord. Corvée Labarre, pour moi, c'était la paire favorite pour le titre de champion de France. Pour moi, le plus gros test pour Maillot-Villéger, c'était presque de battre Corvée Labarre. Dans le sens où tu l'as dit, c'est la paire spécialiste du double homme. Et donc pour moi, c'est là que c'était ce fameux test. Et puis, en termes de match, pas catastrophique, mais très difficile. Tu perds ce premier set en ayant volant de set, je crois, de mémoire. Et puis tu le perds sur une faute de filet dont on pourra discuter. Et tu te dis, oh là là, il faut pas qu'il vrille, il faut pas qu'il vrille. Et derrière... deux sets de parfaite maîtrise où c'est eux qui ont vraiment dominé. Et pour moi, c'est ça, ce que tu as dit, c'était hyper important. C'est que les sélections, on en parlait en off, qui sont faites pour les championnats d'Europe avant les France, c'est un débat. Même avec le titre, j'aurais peut-être pas amené Julien Maillot et William Villéger pour des raisons de ranking, pour des raisons de tu peux pas juger sur une semaine. Mais je pense que là, d'avoir battu les deux meilleures paires françaises, c'est un message qu'il fallait absolument envoyer pour eux et pour leur confiance. Et je pense que c'est un élément qui marque leur montée en puissance, mais qui peut être aussi déclencheur de la suite.
Ouais, c'est ça. Ils battent les deux meilleures paires françaises, tu l'as dit. Les deux paires qui ont gagné le titre, les frères Popov en 2022, Corvée Labarre en 2021.
Bah ouais, c'est ça.
Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. C'est une bonne chose. Et oui, c'est ce que je reviens sur ce que je disais, ce que je te disais à toi quand je regardais la finale. J'ai rien contre les Popov, mais je trouve ça limite rassurant qu'ils soient pas champions de France. Évidemment, je fais référence au fait qu'ils s'entraînent pas en double.
Ouais.
Même si au ranking ça ne va pas changer, ça va rester notre meilleur paire. C'est plutôt rassurant de voir que deux spécialistes du double complémentaires et tout, même sans jouer depuis très longtemps ensemble, ils puissent les battre.
Bah, je partage totalement cette analyse, mais je pense que eux vont pas dire qu'ils sont contents d'avoir perdu, mais pour la France, je pense que eux aussi sont peut-être rassurés de voir qu'il y a des pairs qui peuvent jouer en double sur les compétitions internationales par équipe et que eux peuvent se consacrer un peu au simple. Je pense que même pour eux ce sera bénéfique.
Voilà, si enfin faire jouer plein de fois tes meilleurs joueurs sur tous les tableaux parce que tu peux pas t'en passer, ça c'est bien pour les petites nations sans aucun mépris, mais normalement quand t'es la France,
tu dois
pouvoir te passer des pop-offs quoi, surtout je le rappelle, parce qu'ils ne s'entraînent pas. C'est pas comme, par exemple, Chloé Maggi en Irlande qui pouvait jouer dans plein de tableaux. Là, c'est pas vraiment la même chose.
Je partage à 100% ce que tu dis.
Voilà. La tête de série 3-4 de l'autre côté, c'était une paire 100% Chambly. Fabien Delerue et Éloi Adam, deux très bons joueurs sur le papier, même si peut-être pas les plus complémentaires. Au final, ils ont atteint les demi avant de perdre contre les Popov. 21-13, 21-15. Il y avait aussi dans cette partie de tableau les frères Corvée de Cholet, pour le coup, Jordan et Samy, qui ont perdu au premier tour aussi contre les Popov, 21-18, 21-12. Et Benoît, est-ce que tu veux parler d'autres pairs, notamment, je sais pas, est-ce qu'il y a des jeunes que tu veux mentionner ?
Ouais, je dirais qu'il y en a 2-3 qui ont eu un peu de réussite au tirage, parce que je pense quand même que la paire Katoen-Renoir qui prend un set à Adam Delerue méritait. Je sais pas si ça méritait d'aller en demi, c'est un débat, je pense. C'est un peu compliqué, mais ça méritait pas de se faire sortir au premier tour, c'est sûr.
Oui, c'est sûr que alors qu'en dessous, il y avait un match entre deux paires qualifiées, quoi.
J'ai le même débat pour les frères Corvée. Je pense qu'il y a des paires qui n'ont pas eu de réussite au tirage. Maintenant, ça fait partie du jeu aussi. Mais je pense qu'il y en a qui ont pris rendez-vous avec l'avenir, clairement.
Voilà. Et il y a eu du tirage. Mais je pense aussi que dans ce tableau, il y a quand même les 4 meilleures paires en demi.
Oui.
Même si Adam Delerue, c'est pas fait pour autre chose que des petits tournois.
Ouais.
Allez, on passe au double mixte.
Aimez-vous le badminton ?
Ah non !
Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne.
Bon, double mixte, Benoît, le titre sûrement le plus attendu des 5, j'ai envie de dire. Non, remarque, il y a Chichou Feido, peut-être pas. Mais voilà, quand t'es 5e mondial, tu dois gagner ton championnat national. Sauf si t'es chinois, peut-être, parce qu'il y a peut-être quelqu'un devant. Tom Jiquel et Delphine Delerue qui battent Fabien Delerue et Vimal Aéreo, dont on a parlé tout à l'heure, 21-19, 21-10. Eh Benoît, je dis titre attendu, mais sur ce premier set, ils ont été challengés, nos numéros 1 français. Franchement, c'était pas si facile, et tu sentais dans leur manière d'être sur le terrain que c'était pas acquis et ils étaient un peu tendus.
Ils ont même été bousculés un set durant. J'aurais bien aimé que ce soit plus longtemps, mais c'était compliqué. Globalement, on a senti de la maîtrise, on a senti une paire top 5 mondiale. Clairement, tu l'as vu sur ce match que... Enfin, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Même quand t'es dans le dur face à une paire qui joue mieux que toi dans ce premier set, t'es pas insubmersible, mais tu sens quand même qu'il y a cette expérience. Et globalement, ils font pas une semaine monstrueuse, tu vois. Mais il y a jamais un moment où tu dis « Ah, là, il y a la place ». Enfin, ils sont à ce niveau-là et tu le sens qu'ils ont passé un step pour ça, je trouve.
Bon, en fait, ils ont tellement d'avance sur les autres qu'ils n'ont pas besoin faire du très bon Jiquel Delerue pour être champion de France. Et honnêtement, je pense que c'est pas une insulte de dire qu'ils n'ont pas montré leur meilleur niveau ever sur cette semaine. Mais il n'y a tellement pas besoin que, honnêtement, ils n'ont pas perdu un set de la semaine. Donc, qu'est-ce que tu veux dire ?
Bah non, c'est ça. 5e titre en 6 ans, je crois. Pour eux, parce que Delphine Delerue, elle en a deux de plus.
C'est exactement ça, ouais. Il y a le 2021 où c'est Labarre Pancassari qui sont champions. Je m'en rappelle plus non plus. Sinon, c'est exactement ça, ouais.
Ouais, ils sont à leur place. Ils sont à leur place et ils pourront en prendre 10 hein, en continuant comme ça. Et 10 au bas mot.
C'est clair que là, ils en ont déjà 5 alors qu'ils sont... Ils ont quoi ? Ils ont 24 et 23 ans.
Ouais, c'est ça.
Ils ont de la marge. Ça a dû faire spécialement plaisir à Tom Jiquel qui, en Bretagne, d'où il est originaire, jouait devant... devant ses proches. Benoît, parlons des finalistes, on reparlera après du parcours de Jiquel Delerue.
Ouais.
Fabien Delerue et Vimal Aéreo, donc c'est à eux dont je parlais tout à l'heure, ou qui ont tous les deux des problèmes physiques qui les poussent à arrêter le haut niveau. On a déjà parlé de Vimal Aéreo, mais Fabien Delerue, lui, c'est la hanche, qui l'a d'ailleurs handicapé dans le deuxième set. Il y a eu un arrêt de jeu, mais même après, quand il est revenu, il bougeait plus beaucoup, et c'est là que les points se sont mis à défiler en faveur de Jiquel Delerue.
Ouais, tu sens que c'est dur. Il avait souffert la veille, en fait. Je l'ai pas souligné sur le double homme, mais il souffrait déjà hier, du coup, enfin avant-hier, samedi, quand vous écouterez l'épisode. Mais c'est vrai que ça, en fait, cette paire, elle fait. Chaque fois que je les voyais, tu avais un peu de peine parce que tu vois bien leur niveau, tu vois bien que c'était ta paire numéro 2 en France et que même aujourd'hui, c'est ta paire numéro 2 en France en mixte. Alors, ils ont souffert cette semaine, mais ils ont souffert parce qu'ils ont eu un sale tableau. Et même là, alors que
dès les premiers tours, c'était pas facile. Bon, peut-être pas le premier, mais dès le deuxième, c'était compliqué.
Même là, tu vois qu'en s'entraînant quasiment plus et les deux en étant diminués physiquement à 20 ans ou un peu plus de 20 ans, eh ben, ils sont toujours numéro 2 français. Donc, belle semaine. Hein. On a vu des belles choses.
Ouais, c'est clair. Alors, pour le coup, eux, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, c'est même si là, eux, ils ne vont pas plus jouer à l'international, ils ont joué à l'international ensemble.
Ah oui, oui.
Delerue, Aéreo. Et évidemment, c'était assez spécial de les voir et surtout de voir Fabien Delerue contre sa sœur en finale. Pour le reste, effectivement, Delerue et Aéreo, ils nous ont notamment dû battre Corvée Bauer dès le deuxième tour. Victoire en 3-7 et nouvelle victoire en 3-7 contre Jordan Corvée et Héloïse Lemoulec en demi-finale.
Ouais, alors encore médaillé.
C'est vrai, tu as bien fait de le dire, côté Jiquel Delerue, ça a été plus facile un match contre Samy Corvée et Flavie Vallée au deuxième tour. Et en demi, un match contre Benoît. Il y a toujours un peu une paire où tu te demandes si ça a été tiré au sort. Tu sais jamais comment c'est arrivé. Là, c'était la paire Alex Lani-Antran. Qui a perdu en demi contre Jiquel Delerue. Mais qui s'est offert un petit exploit quand même. Parce que je pense que c'est un exploit de battre Ronan Labarre et Margot Lambert en quart, 21-17 au troisième. T'es surpris ou pas?
Je suis surpris, oui. Mais en même temps... Je suis surtout surpris par le fait qu'Alex Lani ait été capable de jouer avec l'intoxication alimentaire, l'intoxication de l'eau qu'il y a eu à l'INSEP. Et Alex Lani le disait, on l'a vu quasiment tomber à plusieurs reprises en demi-finale du simple homme. Et je suis surpris qu'il ait pu jouer à ce niveau-là, en fait, toute la semaine. C'est surtout ça qui m'a surpris. Maintenant, c'est deux paires qui se connaissent pas, donc je m'attendais à un match comme ça, mais on a vu du bombad en fait dans un match où t'as deux paires qui se connaissent pas, quoi.
Bah t'as surtout une paire qui se connaît même pas entre eux, parce que Alex Lani et Antran, je sais pas s'ils se sont beaucoup entraînés ensemble.
Non, je pense pas.
Côté Ronan Labarre, pareil, il connaît plus celle d'en face que celle avec qui il joue, en l'occurrence Margot Lambert. Mais non, c'est vrai que ouais, mais est-ce que t'es pas, parce que Ronan Labarre c'est quand même le taulier du double mix français, on va dire, sur les dernières années. Il a remporté, quoi, je crois que c'est 5 titres de champion de France dans cette catégorie, ouais, dont un avec Pancassari il y a 2 ans. Est-ce que t'es pas surpris de le voir perdre en quart contre, en face, ok, il y a deux bons joueurs, mais Alex Lani, ça reste un joueur de simple, même s'il joue en double en top 12, ouais. Tu vois ce que je veux dire?
Je vois ce que tu veux dire, mais moi, je pense, ça me surprend pas pour une raison, c'est que le niveau du mixte aujourd'hui n'est plus le niveau du mixte quand Ronan Labarre pouvait gagner le mixte avec des partenaires one-shot tous les ans. Même sur des paires qui se connaissent pas. Il y a tellement de talent quand tu mets Alex Lani et Antran. Oui, ça va pas au bout, mais je pense que c'est tellement plus fort. Faudrait regarder les tableaux, je les ai pas tous en tête, des années où Ronan Labarre gagne avec des partenaires one shot. C'est quand même plus le même niveau.
C'est vrai, Ronan Labarre, non, il a pas gagné 5 fois, il a gagné 4 fois. Et il a la particularité d'avoir gagné avec 4 partenaires différents.
C'est ça.
Benoît, sans regarder, tu peux me les citer ou pas?
Oh putain, je crois qu'il doit y avoir Emily Lefel.
Oui. Oui, je t'en ai donné une deuxième tout à l'heure.
Tu m'as Rosie Pancassari, mais ça c'était récent. C'était voilà. Le plus récent. Et il y a, est-ce qu'il y a pas Laura Chouanet?
Eh oui, la première en 2013.
Ah, je vais pas avoir le quatrième.
Ah, il a joué longtemps avec elle, pourtant en 2017.
Ah, oh, c'est
Audrey Fontaine.
Audrey Fontaine. Ah ouais, non. Ça me revenait pas, je l'aurais pas eu.
Et ouais, non, pas facile, alors que pourtant ils ont joué longtemps ensemble, même à l'international.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà, pas cette fois, pas avec une cinquième partenaire différente pour Ronan Labarre sorti en quart. Sinon, Benoît, de Willem Villeger, Elsa Jacob, sorti dès le premier tour face à Sami Corvée et Flavie Vallée, est-ce que tu es surpris de voir Willem Villeger s'arrêter dès le premier tour, ou alors est-ce que là aussi, avec une partenaire one-shot, comme tu dis, c'était pas pour faire des grandes choses?
Je suis peu surpris, mais j'ai hâte de voir si c'est un one-shot, en fait. Je me suis posé la question, parce qu'il a plus de partenaire de mixte. Donc,
c'est ça, il va falloir lui en trouver une autre moment.
Voilà, donc j'ai pas la réponse, mais je me suis interrogé.
Ok, bah, j'aime bien quand tu t'interroges. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce tableau de mixte?
Non, on en a bien parlé, il y avait beaucoup de paires intéressantes, donc on en a dit beaucoup déjà.
Ouais, c'est vrai. Là, bon, je conclue là-dessus, parce que là, il ne reste que des tableaux de simples. J'avoue que les championnats de France, moi, j'aime bien quand il y a des paires qui sortent de nulle part et qui te sortent des petites perfs. Ça permet de changer de ce qu'on voit d'habitude, notamment sur les tournois internationaux où c'est plus préparé, on va dire. Alors que là, tu te dis, bon, tu sais que Alex Lanier et Anne Tran, ils ont joué plus pour le plaisir que pour autre chose. Allez, on passe au simple dame. Look at this, look at that. Comme je l'ai dit tout à l'heure, victoire de Chichoufeu relativement attendue. De finale, il n'y a pas eu, puisque elle a mis une tôle à Rosie Pancassari, 21-6, 21-7. Benoît, tiens, parle-nous du match.
Bah, malheureusement, on ne peut pas inviter Rosie Pancassari pour en parler, mais il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, ça va trop vite, la stratégie adoptée, c'est pas la bonne à mon avis. C'est difficile de faire plus, on va pas se mytho, elle est tellement au-dessus de tout le monde. Même sur une jambe, comme l'ont souligné les commentateurs plusieurs fois, même avec ses soucis physiques, elle est trop facile. Elle est trop facile et je trouve que personne n'essaie en fait. Ouais, personne n'essaie ou personne ne peut la mettre en danger. Et clairement, Rosie Pancassari, c'est celle qui a pris la plus grosse leçon, je pense, cette semaine.
Ouais. C'est vrai que Chichoufeu, ça fait un moment que moi, personnellement, je ne l'avais pas vu jouer, parce que là, je ne saurais même pas dire la dernière fois qu'elle a joué des matchs internationaux, mais en tout cas, 2023, ouais. Elle n'était pas présente sur la tournée asiatique, pour des raisons qui lui sont propres, mais j'imagine qu'elle ne doit pas se sentir prête à jouer ce genre de match. Mais au championnat de France, elle reste intouchable, troisième titre en 4 ans pour elle, et ouais, c'est vrai qu'en tout cas, sur cette finale, il n'y a rien eu à faire...
Elle est facile.
Pour Rosie Pancassari. Mmh. Ouais. Et au passage, Benoît, je te l'ai dit quand ce match a commencé, mais voir une joueuse formée en Chine et une joueuse formée en Indonésie s'affronter en finale des championnats de France, ça laisse songeur sur la façon qu'on a de former nos joueuses de simple dame.
Ouais, je sens que tu me tends la perche. Moi, ça me laisse pas songeur. Hein. C'est pas le moment, mais je pense que j'ai un avis très tranché sur la question.
Ça fait plusieurs fois qu'on effleure le sujet, faut vraiment qu'on fasse un épisode, faire un épisode là-dessus.
On aurait un invité
parce que
pour
pense
ça,
qu'il y aurait pas mal de choses à dire. Ouais. Benoît, de quoi tu veux parler? Tu parlais de Chichoufeu que personne n'a challengé, c'est à moitié vrai, puisque je sais que tu as vu et apprécié le match d'Anna Tatranova, qui l'a affronté en demi-finale et qui s'est incliné 21-18, 21-17. C'est finalement celle de très loin qui a posé le plus de problèmes à la triple championne de France.
Oui, et je pense que par moment, je me suis demandé si elle s'attendait à ce que ça arrive, parce que j'ai eu parfois l'impression qu'elle calait en se disant « Mais attends, mais je suis vraiment devant, là, contre Chichoufeu. » Vraiment, c'est dommage, hein, parce qu'elle a proposé vraiment un truc très offensif, vraiment où elle a embêté Chichoufeu, elle lui a dit « Bah écoute, je vais tout attaquer, et puis on va voir ce que t'es capable de faire. » C'est un full risque, on est d'accord. Mais Christo avait fait pareil contre Victor Axelsen. Quand t'as plus rien à perdre,
ouais, voilà. Quand t'es largement outsider, c'est pas bête. Anna Tatranova, qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, n'a que 19 ans, déjà arrive en demi des championnats de France, c'était déjà pas gagné. Elle a eu raison finalement.
Elle a eu raison, et puis au-delà de ça, je m'interroge sur le fait qu'elle était sélectionnée déjà au championnat d'Europe par équipe féminine ou à la Uber Cup, mais j'ai plus en tête. Bon, bref,
pour moi, elle a été dans le groupe une fois parce que si je me souviens, elle a joué à l'Uber Cup à Anna Tatranova.
Bon, toujours est-il que autant le double homme, j'ai pas ce débat là, autant le choix d'avoir fait les sélections avant les championnats de France m'a laissé relativement songeur. Puisque malgré le forfait de l'abandon de Malia Oaro, Anna Tatranova était quand même largement devant dans ce match. Et ça laisse songeur sur le mérite qui a porté à ces championnats de France.
C'est clair, même si bon, on va dire, je ne m'en fais pas trop pour Anna Tatranova, non, qui je suis sûr on la reverra en équipe de France sous peu, parce que si elle continue de sortir des bonnes perfs, elle est surtout dans un tableau où il y a la place, hein, je pense.
Quand
tu vois l'état physique et le niveau de certaines devant elle, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de place.
Tout à fait.
Parlons de Yael Oyo, championne de France 2021, qui, bah, on va le dire clairement, a payé son statut de tête de série 5-8, puisque après deux tours passés, elle a pris Chichoufei dès l'écart, et elle a pris 13 et 14. Pour le coup, a priori, c'est celle qui aurait pu poser le plus de problèmes à Chichoufei, mais ça n'a pas vraiment été le cas, Benoît, par moment. On a eu un peu l'impression, mais en fait, dès que Chichoufei a appuyé le pied sur l'accélérateur, elle a fait la diff.
Ouais, perso, j'ai même jamais eu l'impression. Hein.
Ok.
Non, celle qui aurait pu, c'est Léonie Sué, qui a fait forfait, mais qui n'était pas dans la même partie de tableau avec l'histoire de l'intoxication de l'eau à l'INSEP. Pour moi, c'était la seule qui, avec son niveau actuel, avait le potentiel pour l'embêter, clairement. Yael Oyo, pour moi, c'est déjà... Enfin, en fait, son statut de tête de série 5-8, il lui a desservi et à la fois, il lui a permis de faire un quart de finale. Parce que clairement, je pense que j'aurais bien aimé la voir contre Malia Oaro ou Anna Tatranova sur un premier tour. Je ne suis pas persuadé que ça aurait été une tâche aussi simple que ce qu'on aurait pu penser il y a quelques années.
Non, c'est clair. Là, les cartes sont un peu redistribuées dans ce tableau. Ouais, tu l'as dit, pas de Léonie Sué à cause de... Donc, ouais. Si vous ne savez pas, ouais, il y a eu... Benoît l'a dit, mais une affaire d'eau intoxiquée à l'INSEP. Il y a eu des conséquences graves pour certains athlètes. Je sais que les pompiers ont dû intervenir et tout. Pour le BAD, ça va encore. Et quand je dis ça va encore, c'est que du coup... Il y en a qui ont joué diminué, comme Alex Lanier. Il y en a qui n'ont pas pu jouer, comme Léonie Sué. Ça a fait, on va dire, les affaires de Rosie Pancassari dans cette partie de tableau où c'était beaucoup plus dégagé. Mais elle a quand même dû, pour aller en finale, se faire une place contre Romane Kloto-Foucault, qui était, elle, tête de série 2. Et je sais que elle a pas... Enfin, je sais que, Benoît, que tu... On en parle... dans ce podcast, elle a pas mal progressé récemment, donc j'avais hâte de la voir. Est-ce que tu es surpris de la voir perdre donc contre Rosie Pancassari 21-12, 21-23, 21-13 en demi-finale?
Je suis pas surpris de la voir perdre, mais je pense que c'était la demi-finale que tout le monde attendait, enfin que tout le monde, dans ce tableau en tout cas, qu'on attendait. Et je pense que c'était du 50-50 honnêtement sur ce match. C'était du 50-50. Peut-être qu'à la fin du deuxième, quand Romane Kloto-Foucault sauve volant de match, je me dis est-ce que ça c'est pas en train de tourner. Et en fait, Rosie Pancassari a été vraiment solide comme elle l'avait été dans le premier. Mais ouais, clairement, pour moi, elles étaient à leur place de médaillées au championnat de France, les deux là.
Ouais. Ophélia Casier aurait pu peut-être en attendre un peu mieux. Benoît, tête de série 3-4, autant en double elle était tête de série 1, bon là pas grand chose à faire, autant là c'est quand même une joueuse qui a, elle, était en équipe de France plusieurs fois et qui a compté, et là la voir perdre pas dès le premier tour puisqu'elle en a pas joué, mais dès le deuxième contre la très jeune Malia Oaro, 21-17, 21-18, est-ce que tu es surpris, voire déçu, ou les deux?
Ni l'un ni l'autre. Puisque Malia Oaro, faut être honnête, si vous la suivez un peu, sur le circuit junior, on la voit monter en puissance, que ce soit en France ou un peu sur le circuit international junior. Ouais. Ophélia Casier,
2006, l'année de naissance de Malia Oaro, quand même. Donc
ouais, qui est à peine junior 1 de mémoire.
Ouais.
À côté, Ophélia Casier, c'est quand même compliqué depuis cette fameuse médaille au championnat de France et sa sélection c'était au championnat d'Europe par équipe qui était dans le Nord.
À Liévin, Benoît,
merci.
Comment t'as pu oublier Liévin?
Merci, en plus on y était. Depuis là, c'est quand même beaucoup plus compliqué et globalement, à Fos, elle n'a pas su faire sa place non plus dans l'équipe. Enfin, en tout cas, elle n'a pas une place de titulaire dans l'équipe de top 12, donc... Je suis pas surpris, mais c'est quand même compliqué pour elle.
Très compliqué, ouais. Je pense qu'on a fait le tour, Benoît. Donc, pas de Marie Batomen, j'ai pas précisé, voilà. J'aurais bien aimé voir ce qu'aurait pu faire Delphine Lansac dans un tableau pareil. Quand on la voit en top 12, moi, je pense qu'elle aurait pas forcément été ridicule. Hein.
Bah, moi non plus, je pense pas, mais je pense qu'elle a d'autres priorités. Mais oui, c'est une potentielle au moins médaillée, ça c'est sûr.
Ouais. Allez. On passe tout de suite au dernier tableau, le simple homme.
Oh my goodness!
Comme attendu, on va dire, un Popofico en finale. Et c'est Thomas qui a battu son frère Christo, 19-21, 21-14, 21-19. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser et à ce que moi je pensais, on a eu un vrai match, Benoît. Franchement, ça a très bien joué. Ils nous ont, un peu comme quand ils jouent en double, ils nous ont régalé les deux frères avec beaucoup de très beaux échanges et notamment une fin de... Le score du premier set est assez trompeur parce que Christo a eu des volants de set, une poignée, une grosse poignée on va dire, mais donc ils ont eu en gros un set chacun. Mais ce troisième set où ils se sont rendus coup pour coup et où ça a été serré tout le temps, on s'est régalé, Benoît.
On s'est clairement régalé. Longtemps on a cru que Christo serait en mesure d'aller le chercher. Honnêtement, je vous recommande d'aller voir ce match parce que c'est peut-être un... On en parlait en off, c'est un peu bizarre, mais en même temps, en termes de qualité, de jeu, c'est peut-être ce qu'on a vu de mieux cette semaine, tout tableau confondu avec cette finale du double dame. Je pense, en tout cas, c'est mon avis personnel. Mais
Il y a eu un petit match aussi assez sympa dans les premiers tours dans ce tableau, on y reviendra, mais ça implique deux jeunes joueurs.
Ouais, puis c'est pas le même niveau. C'est intéressant parce qu'ils sont très proches, mais là... Là, on a vu deux mecs au niveau international, enfin deux mecs de top 40, top 30 international, et vraiment, vraiment une très très belle finale entre les deux. Le premier titre de Tommy, et je pense qu'il est, je vais plutôt insister sur ça, il est très important parce que psychologiquement, il le fallait. Ça aurait été le troisième de Christo dans deux consécutifs, 3 en 4 ans, il le fallait en fait pour Tommy.
De ouf, franchement, moi je suis assez d'accord avec ça. C'est donc déjà sur le match très intéressant parce que donc ils se connaissent par cœur, les mecs ils jouent l'un contre l'autre, ils s'entraînent ensemble depuis qu'ils ont l'âge de tenir une raquette, mais du coup ils sont obligés de chercher des solutions pour essayer de tromper un peu les habitudes, on va dire, du frère en face, et du coup je trouve ça très intéressant. Je trouve que Thomas Popov, il a été monstrueux en défense parce que des fois il a subi et ce qu'il a réussi à remettre, et surtout dans des moments importants, je l'ai trouvé notamment sur l'avant-dernier point, je crois, à 19-19, je l'ai trouvé très très costaud défensivement, Tommy Popov. Et très important parce que son frère en avait déjà deux, parce que Arnaud Merclé en avait un, et que lui était le meilleur joueur français à l'international, mais qui n'en avait pas encore, c'est désormais réparé, un peu comme William Villéger d'ailleurs, donc on m'a pas dit, mais qui en avait pas non plus. C'est des mecs en fait qui sont pas vieux, mais ils sont, Benoît, ils sont au haut niveau français depuis tellement d'années qu'on se dit, mais c'est pas normal que, et surtout dans le cas de Thomas Popov, Thomas Junior Popov, on se dit, c'est pas normal qu'il en ait pas eu un avant. Désormais, voilà, il aura peut-être un peu moins de pression. Ouais, lui était plus souverain à Orléans, son frère perfait plus au championnat de France, bah voilà, maintenant il a son titre.
J'allais dire encore plus pour Tommy que pour William Villéger, parce que William Villéger, il y a le jeu des partenariats. Tommy, il est top 25 mondial maintenant depuis là, il en est peut-être sorti, il est peut-être 26, je sais plus exactement là tout de suite, mais il est top 30 mondial depuis 2 ans maintenant. Donc oui, ce titre, c'est aussi logique qu'ils viennent le chercher. C'est finalement ça aurait été logique qu'il aille le chercher il y a 2 ans. Mais ouais, c'est la juste récompense. Puis un match 1h20, les deux ont physiquement, je pense, été épuisés au fond, parce qu'il y avait eu cette finale du double avant, mais parce qu'aucun des deux n'a envie de donner à son frère, évidemment, même si on a vu de belles images, aucun des deux n'a envie de donner le titre à son frère. Je pense que c'est vraiment symbolique et très important, ouais, j'insiste là-dessus.
Ouais, non, mais moi aussi. Benoît, on peut regretter, on ne sait pas exactement dans quel état était Alex Lanier, pas à son meilleur niveau. Il a quand même pris un set à Christo en demi, 21-23 le deuxième, mais il perd 21-11 au troisième. On aurait bien aimé déjà voir ces championnats de France avec Arnaud Merclé, et donc blessé, je le rappelle, et avec Alex Lanier en pleine possession de ses moyens.
Ouais, pour moi, Alex Lanier nous a pas envoyé un message pour nous dire quelle forme il avait, mais on l'a plusieurs fois allé regarder cette demi-finale, tous les matchs sont sur YouTube d'ailleurs, si vous voulez aller vous les refaire. Il a failli, à la fin de plusieurs échanges, on le voit limite titubé, et puis il l'a dit, je crois qu'il a donné une interview pour West France juste à la fin des finales, où il dit, j'ai bu de l'eau, je me suis réhydraté, mais j'ai mangé du riz, et puis c'est tout, depuis 2 ou 3 jours, donc... Tu peux pas être à ton meilleur niveau physique, en tout cas, et du coup ça engendre ce que ça engendre sur ton niveau de bad. Je pense qu'on peut pas juger Alex Lagnier, et qui en plus a été héroïque, c'est vrai, face à Christo, de pas lâcher le truc, de prendre un set, de sauver des volants de match. Mais on peut pas. Enfin, pour moi, il y a rien à juger sur Alex Lagnier sur ces championnats de France. Tu peux pas.
Benoît, premier, en tout cas championnat de France où on n'a pas ni Lucas Clairbout. D'ailleurs, on avait dit qu'on s'était trompé dans l'épisode de Top 12, on avait dit qu'il était présent, je m'en excuse. Pas de Thomas Rouxel, pas de Brice Leverdez qui a annoncé pendant ces championnats de France qu'il allait prendre sa retraite dans quelques mois. Plus de Lucas Corvée en simple depuis un moment. Du coup, il y a de la place pour quelques jeunes, outre ceux qu'on connaît depuis longtemps. De qui tu veux parler, Benoît, à part les trois dont on vient de parler, qui sont les tauliers maintenant de l'équipe de France?
J'allais dire, je te vois venir, Ewan. Je te vois venir, je sais où tu veux que je t'amène. Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a deux, trois qui nous ont régalé cette semaine, quand même?
J'avais notamment hâte de voir Eno Garoua, qui était tête de série 5-8 et qui s'est incliné, qui a passé un premier tour contre Arthur Vakevich, lui aussi très très jeune.
Oui.
Et qui a perdu contre Simon Baron-Vézilier, mais quel match! Une heure, mais 25-23, 18-21, 21-19. Là, Benoît, on voit que, c'est ce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois dans ce podcast, mais on a une telle densité de jeunes joueurs de simple homme français, et les deux joueurs que je viens de citer, Eno Garoua et Simon Baron-Vézilier, en font partie.
Ils en font très clairement partie. Eno Garoua a un peu plus performé à l'international, sur le circuit européen en tout cas, que Simon Baron-Vézilier, mais c'est vraiment deux joueurs pour moi qui doivent être les seconds couteaux aujourd'hui de Christo, Tommy, Alex, Arnaud Merclé. En fait, c'est exactement comme ça que je les vois.
Ouais, moi aussi, hein, clairement.
Et d'ailleurs, sur le niveau qu'ils ont affiché sur ces France, hormis le fait qu'Eno Garoua, malheureusement, se tape Simon Baron-Vézilier au second tour, ils ont justifié clairement ce statut.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a encore... attention, on sait qu'il y a encore un gros écart de niveau entre les quatre que tu as cités et les plus jeunes. Mais c'est bien de voir qu'il y a du monde, qu'il y a du monde derrière. Celui qui a fait une bonne perf aussi, c'est Johan Barbieri, qui a notamment battu Martin Voisin tête de série 5-8. Et en haut du tableau, en haut du tableau, le niveau était un peu moins haut, je pense. Tu me diras ce que t'en penses, mais celui qui a réussi à tirer son épingle du jeu, c'est Thomas Fourcade, qui en battant Marius Reboul-Alexandre, ensuite Grégoire Deschamps et Amaury Lièvre, il est allé chercher sa médaille, même s'il a sèchement perdu contre Tommy Popov. Bravo à lui, j'ai envie de dire.
T'as tout dit, parce que sa médaille, il est allé la chercher. Il s'est donné les moyens, lui aussi. Hein. C'est pareil, hein. Faut aller se battre pour aller chercher sa médaille. C'était pas un tableau si facile que ça. Il était pas le favori. Et clairement, je m'attendais pas à ce qu'il aille la chercher. Très clairement, je m'attendais plutôt à avoir un Sacha Lévesque dans cette partie de tableau.
Moi aussi, ouais. Totalement, le joueur de Chambly qui a perdu dès le premier tour. Ça, c'était assez surprenant.
Ouais. Donc, très très belle, très très belle fin de semaine de Thomas Fourcade, ouais, clairement.
Côté Thomas Junior Popov, lui, il a eu un tableau un peu plus dégagé. Hein. Sylvain Ternon, Valentin Singer et donc Thomas Fourcade, c'était peut-être un peu plus facile que ce qu'a eu notamment son frère, à savoir Louis Ducrot dès le deuxième tour. Simon Baron-Vézilier plus Alex Lannier, je pense que on peut clairement dire ça.
Oui.
Thomas Junior Popov qui succède à son frère et qui a fait respecter la logique sur cette semaine. Maintenant, Benoît, avec cette densité, j'ai envie de dire, et que visiblement une page se tourne avec Thomas Rouxel puis Brice Leverdez et notamment l'ancienne génération qui ne vient pas du coup, ce qu'on attend, c'est des championnats de France avec tout le monde à 100% et un dernier carré Merclé, Popov, Lagnier. C'est ça qu'on a envie de voir.
Oui, monsieur, c'est exactement ça qu'on attend.
Depuis 5 ans, on veut voir ça. Depuis 5 ans, on veut le voir. J'espère qu'on l'aura.
2024, ce serait fou. L'année des Jeux, il y aura des places à aller chercher, on le sait. Donc on attend. Bien sûr qu'on attend ce grand moment.
Bien sûr, on aime les voir en équipe de France ensemble, voilà. Mais nous, on veut les voir aussi se taper dessus. Oui, c'est ça qu'on veut voir.
Exactement.
Voilà, Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ces championnats de France? Il y avait quelques absences, mais globalement, on a eu des éditions un peu moins ouf ces dernières années. Je trouve que cette année, c'était bien. En plus, le fait de pouvoir voir quasiment tous les matchs et surtout les gros en diffusion continue, ça fait plaisir, il faut le dire. Donc, c'était une belle semaine.
C'était une très belle édition dans une très belle salle, dans une belle ville. Moi, j'ai un petit bémol, c'est de ne pas avoir diffusé les qualifs et les matchs de vendredi. Mais le taf a tellement été bien fait ce week-end et globalement, très très content de cette édition en termes de niveau de jeu, de tout en fait. Donc c'est une des plus belles éditions de ces dernières années.
Je suis assez d'accord avec toi et maintenant on a hâte de voir tout ce dont on a parlé, comment la nouvelle hiérarchie ou l'ancienne se matérialise sur le circuit international. Eh bien, Benoît, merci d'avoir fait cet épisode avec moi.
Merci à toi, Ewan, comme toujours, et merci à vous pour votre écoute.
Alors, vous le savez peut-être, mais là, on va rester dans l'Hexagone, puisque la semaine prochaine, c'est retour du top 12 avec la 7e journée. Donc, lundi 13 février, ce sera le débrief de la poule A, et le jeudi 16, le débrief de la poule 2, si tout se passe bien. Et ensuite, pas mal des joueurs et joueuses dont on a parlé là seront de retour pour les championnats d'Europe par équipe. D'air sur la liste d'ailleurs, donc si vous vivez plus ou moins dans le nord de la France, vous pouvez aller voir. Je pense qu'il y a encore des billets à vendre, encore une très belle salle en plus à R sur la liste où il y a eu les championnats de France en plus. Et ensuite, ce sera re-top 12. Donc voilà, globalement, vous pouvez retenir que février, c'est équipe de France, top 12. Après, c'est championnat de France, le circuit international, pour ceux à qui ça manque, sera de retour chez nous, Certain Trend Shuttle, le 13 mars, pour le débrief du German Open qui aura lieu la semaine d'avant. Merci à vous de nous écouter. À la semaine prochaine.
绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。你是否在倾听这平凡的声音？